Jean-Claude Marcoux à Jeun. Trois réflexions par rapport à vos propos pour lesquelles je suis assez inquiet, je vous l'avoue. Vous allez voir pourquoi. Je me pose la question, où est mon espace sacré lorsque je suis devant un ordinateur? Où sont mes parvis? Or, on dit bien que pour avoir un espace sacré, il faut un espace-temps, il faut un lieu et il faut des symboles. Et là, je n'ai pas mon compte. Donc, quelque part, je suis frustré. C'est pas bien. Deuxièmement, lorsque je m'adresse à quelqu'un, un frère ou une sœur, j'ai besoin de son regard. Puisque c'est elle ou c'est lui qui va me reconnaître comme tel. Donc si je n'ai pas son regard qui me renvoie à qui je suis, où je suis, et si j'ai une bêtise, ben c'est pareil, je suis frustré, ça ne me va pas. Je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas passé une bonne soirée. Et troisièmement, pour faire vite, lorsque j'ai la chance d'avoir un jeune, un apprenti, puisque nous sommes un petit peu entre nous, la première chose que je lui pose, je lui dis, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans ta tête, dans ton toi, dans tes convictions, pour pouvoir y mettre autre chose à la place? Parce que Wikipédia, dont on voit les planches s'enrichir à tour de bras et qui m'énerve un petit peu, permet d'accumuler des connaissances. Mais comment peut-on augmenter des connaissances ou accumuler des connaissances dans une tête qui est déjà pleine? Parce que lorsque quelqu'un ou un frère a travaillé toute la journée, a gambadé, a pris la voiture, arrive crevé, comme c'est pas possible, et qu'on lui dit encore, maintenant, on va t'apprendre en plus quelque chose, mais le pauvre, il n'en peut plus. Donc la question de lui dire, c'est, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Cette fameuse notion de sacrifice que nous avons, nous francs-maçons, qu'est-ce qu'on sacrifie pour être meilleur? Et là, je ne me retrouve pas dans ça. Donc si vous avez des lumières, question un peu piège, mais enfin bon, pour lancer le débat, merci.
Oui, alors oui, on est tout à fait d'accord. Dans l'article que Jean-Pierre a cité tout à l'heure, que j'avais écrit en 2012 à propos des cyberloges et de la maçonnerie sur Internet, j'avais parlé de désacralisation. Donc je rejoins tout à fait ce propos. On n'est pas dans un espace-temps sacré. Et donc, quand on est dans une cyberloge, pour moi, on n'est pas dans un processus de sacralité, c'est-à-dire de séparation entre le monde profane et le monde maçonnique. Alors ça c'est le premier point. Sur l'autre point, sur le fait d'avoir besoin de rencontrer le regard de l'autre, oui, ben c'est pareil quand je dis qu'il faut tenir la main, hein, la chaîne d'union, on ne peut pas la voir derrière un écran d'ordinateur. J'irai même encore plus loin. J'irai même encore plus loin parce que la maçonnerie a mis en place dans ses loges des règles communicationnelles très strictes, très rigoureuses, qui sont différentes de celles du monde profane. Je pense notamment au principe de triangulation, de la prise de parole, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et en montrant que finalement, la triangulation, c'est-à-dire pour les profanes, quand quelqu'un demande à prendre la parole, il ne la prend pas. D'abord, il demande l'autorisation, et ensuite, il ne s'adresse pas directement au vénérable maître qui dirige la loge, il s'adresse au premier ou au second surveillant, qui va demander au vénérable maître, qui va donner la réponse, et la réponse va être répercutée. Bon, donc, on a un triangle. En fait, si on fait ça, c'est parce qu'on veut mettre en place une forme de médiation. Voilà, une médiation, un tiers médian, ce qui évite, des textes du XVIIIe siècle le montraient très bien, ce principe de triangulation était destiné à construire la concorde, à éviter qu'on ne se coupe la parole, qu'on ne s'écoute pas les uns les autres, comme on le fait dans le monde profane, dans une réunion, dans le monde de l'entreprise, tout le monde a déjà vu ça au moins une fois. En maçonnerie, voilà. Et là, quand on est sur Internet, eh ben c'est pas du tout ça. On dit quelque chose, l'autre répond, parfois trop vite, sans avoir pris le temps de la réponse et au risque de regretter ce qu'il a dit. Il y a des mots parfois un peu violents qui... alors, il peut y avoir des modérateurs qui, après coup, enlèvent le post, le commentaire. Mais enfin, globalement, on n'est plus dans ce système de médiation et de triangulation qui fait aussi la spécificité de la maçonnerie. Et concernant Wikipédia, alors... Et je crois qu'il était dit savoir, connaissance. Pour moi, justement, c'est pas de la connaissance. Wikipédia, c'est du savoir. C'est une approche cumulative du savoir. C'est une approche quantitative, factuelle. qui se veut objective, mais voilà, on est dans une approche plutôt quantitative. En maçonnerie, on n'est pas tant sur de l'acquisition de savoir que sur de l'acquisition de connaissances. Connaître, c'est naître avec. C'est-à-dire que l'individu se trouve changé par ce qu'il acquiert. Et c'est pas des connaissances, c'est pas des informations objectives, c'est pas accumuler le plus possible d'informations. C'est se construire soi-même en réfléchissant par soi-même et aider des autres sur le monde qui nous entoure. La connaissance, c'est pas du tout la même chose que le savoir. Donc effectivement, Internet nous pousse plutôt à aller vers l'acquisition de savoir et pas du tout sur l'acquisition de connaissances qui doit en passer par une herméneutique, une interprétation longue et permanente des symboles qui nous entourent. De même qu'Internet privilégie l'approche logique, conceptuelle, théorique, plutôt que l'approche symbolique, sensible, tout ce qu'on a dit.
Ouais, je peux que rebondir là-dessus. Alors, à savoir, effectivement, que le tout, c'est de savoir aussi se positionner. Est-ce qu'on est des savoirs humains ? Est-ce qu'on est des fers humains ? Ou est-ce qu'on est des êtres humains ? Alors après, moi, mon sacré, je le mets dans cet être. Effectivement, je peux avoir une relation d'ordre sacré, y compris avec une représentation. C'est possible. On va passer sur les iconoclastes et toute cette frange où on a de l'adoration de l'image, comme dans les cultes orthodoxes, etc., qui peuvent apporter, ça peut être utilisé comme véhicule, comme symbole pour quelque chose qui va plus loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que la maçonnerie, on est quand même toujours dans des images, des représentations. Que ce soit des signes ou des symboles, on est quand même dans une représentation. Et l'Internet est aussi une représentation. Ce qui fait que ça, on peut facilement se faire piéger, parce que d'un côté, on a une représentation symbolique qui nous amène à découvrir des parties de nous encore inconnues, latentes, etc. Et de l'autre côté, on a un imaginaire qui est directement lié aussi à l'esprit du libéralisme, c'est-à-dire un imaginaire qui va proposer du savoir d'une manière quantitative, cumulative, etc., avec la notion « j'emmagasine le plus d'informations possible ». À savoir que, regardez, là j'ai mis des blogs, alors on ne voit pas, parce que la définition, j'ai fait ça hier soir avec mon téléphone, et c'est vrai qu'il y a la définition même. Celui qui a le plus de connexions, c'est l'édifice. Alors l'édifice, c'est un site dans lequel on peut récupérer des planches. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est celui qui a le plus fort taux de fréquentation. Alors, moi, ça me pose problème, puisque je suis quelqu'un qui aime plutôt travailler, décortiquer, rentrer en moi et mettre un petit peu mes tripes sur la table. Et quand je vois qu'en fait, les planches sont justement une espèce de redite du Wikipédia, on n'est plus dans l'initiatique, on n'est plus dans la compréhension de soi, on est dans un modèle qui s'apparente au modèle de l'école. Et ce qui est une grosse différence à faire entre la maçonnerie et l'école. On n'est pas là pour gagner quelque chose, on est là pour déconstruire quelque chose, pour aller au fond de soi. On est dans un processus d'individuation, comme on dit, mais d'essentialisation, c'est-à-dire qu'on part de cette pierre brute qui nous forme, qui est ce qu'elle est, qui est issue de notre éducation, nos peurs, nos faiblesses, nos émotions, etc. Et on va en extraire la quintessence. Comment ? En progressivement déstructurant, en se désidentifiant des émotions, en se désidentifiant après de notre manière de concevoir le monde, de notre manière cognitive, le côté lunaire, le côté solaire, et à la rigueur après, même en se désidentifiant peut-être, que je postulerai pour le maître Hiram, vers le corps, pour laisser apparaître l'essence même de qui l'on est. Alors effectivement, si on est dans une quête de savoir perpétuel, on peut y aller sur Internet, c'est très bien. On a accès. Moi, c'est comme la première fois qu'on m'a demandé « Tu veux rentrer en maçonnerie ?» Et je me dis « Je ne savais pas trop ce que c'était. » Mais la première image qui m'était venue, je me suis dit « Mais c'est un peu comme, vous savez, là, le nom de la rose. » Bon sang, je vais rentrer dans la plus grande bibliothèque de toute la chrétienté. Je m'attendais à avoir des murs de livres et je me dis, moi, qui suis plutôt en rade de bibliothèque, je vais, ça va être un bonheur suprême, je vais consulter des vieux documents de 1830, etc. C'est pas du tout ça. Or, j'étais un petit peu déçu parce que j'aime bien les livres, mais en même temps, j'ai été gagnant parce que tout d'un coup, l'espèce de prévalence mentale que je pouvais avoir est passée à l'arrière-plan. Et c'est plus quelque chose de naturel qui est venu. Et ça, je le dois à ce que l'on vit d'une manière, j'allais dire, corporelle. physique et non pas d'une manière virtuelle. Le virtuel, ça peut être le virtuel de l'informatique, évidemment, mais ça peut être aussi le virtuel d'un livre. On n'a pas besoin de livres en franc-maçonnerie. On a juste besoin de vivre et d'essayer de s'approprier les symboles et de les travailler. C'est tout. La littérature n'est pas là.